blockchain, capacité de stockage, XL, JPEG, PDF, capacité énergétique, refroidissement, alpha miner, machine à miner. La littérature peut-elle être high-tech ?
Pascal Paradou.
Petite leçon de technologie aujourd'hui, et je ne vais pas faire le malin, mais depuis que j'ai lu le nouveau roman de Jean-Philippe Toussaint, La clé USB, je touche presque ma bille. Un roman d'espionnage entre Bruxelles et Tokyo, où il est question de machines à miner et de transfert de technologie. Bonjour Jean-Philippe Toussaint.
Bonjour.
Vous êtes du genre geek ?
Pas que je sache, ou disons que...
Comment ça, pas que je sache ?
J'ai
vous
fini,
l'êtes ou vous l'êtes pas ?
J'ai fini par y connaître un petit peu quelque chose, mais en réalité, je suis plutôt romancier que spécialiste des nouvelles technologies.
Parce que pour moi, qui ne suis pas du tout spécialiste des nouvelles technologies, blockchain et bitcoin, c'est pas du tout mon vocabulaire quotidien et ce n'est pas du tout non plus dans mon espace mental et littéraire.
Ce n'était pas du tout dans le mien non plus, jusqu'à il y a 3 ans, lorsque je me suis dit que je voulais situer un roman dans le milieu de la Commission européenne, dans le domaine de la prospective, et ayant fait un entretien avec quelqu'un, un spécialiste, il m'a parlé d'un certain nombre de domaines qui concernaient l'avenir. L'avenir de l'alimentation, l'avenir de l'OTAN, et puis l'avenir des nouvelles technologies. Qu'est-ce qui est vraiment actif ? Qu'est-ce qui change et qu'est-ce qui va transformer nos vies dans 10, 20 ans ? Il m'a parlé de la blockchain, et en fait, je n'avais jamais entendu parler de cette blockchain. Il m'a parlé du bitcoin, mais j'ai tout de suite vu qu'il y avait quelque chose là de potentiellement intéressant pour un romancier. C'était un arrière-fond qui n'était pas très loin des questions de cybersécurité, cybercriminalité. Et là, évidemment, pour un romancier, il y a un potentiel, il y a quelque chose qui peut accrocher.
Mais alors, c'est quoi une blockchain ?
Ouh, alors là, vous m'interrogez.
J'ai à peu près compris, mais je préfère que vous nous racontiez l'histoire.
En fait, c'est comme un registre infalsifiable. Le principe, c'est qu'il n'est pas situé à un endroit. Donc, imaginons un registre infalsifiable. S'il est à un endroit, ben, on peut forcer la porte et aller le modifier. S'il est diffusé dans des millions d'ordinateurs, on ne peut pas le transformer parce qu'il y a des millions, il faudrait le transformer des millions de fois. Et donc, en fait, c'est quelque chose qui apporte de la confiance. Et c'est pour ça qu'il est utilisé beaucoup dans les crypto-monnaies. Alors, la plus connue des crypto-monnaies, je l'ai appris aussi, je vous rassure, c'est le Bitcoin. Mais d'ailleurs, le Bitcoin, c'est récent. C'est apparu en 2008. Et là aussi, je me suis dit, il y a quelque chose d'assez fascinant. Parce que ce Bitcoin, en fait, il faut faire des calculs extrêmement longs, extrêmement complexes, avec des machines à miner, très énergivores. Et il y a des espèces de mines entières, comme ça, j'ai appris ça. Et c'est un décor assez fascinant. Et donc là, ayant travaillé pour ce livre, j'ai découvert, en fait, un univers assez secret, assez caché, assez fascinant.
Et un peu presque de science-fiction. Pour le romancier que vous étiez.
Oui.
Même si c'est du réel, c'est très quotidien pour beaucoup.
C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, il flirte avec des univers auxquels je ne suis pas habitué. La science-fiction, vous avez raison. Le roman d'espionnage, l'espionnage. Toutes ces questions de cybersécurité. Et puis, avec cette idée que j'ai introduite de la backdoor, la porte dérobée. Et finalement, ça rencontre un écho avec l'actualité. C'est-à-dire qu'en fait, on a beaucoup entendu parler de Huawei avec la technologie 5G. Et certains ont soupçonné Huawei d'introduire des portes dérobées dans leurs machines. Portes dérobées qui leur permettaient d'accéder à certaines données qui sont à l'intérieur des machines. Tout ça me semblait assez intéressant. Et donc, j'ai imaginé une machine à miner, un nouveau prototype de machine à miner fabriqué par une société chinoise qui aurait éventuellement contenu une porte dérobée, une backdoor.
Voilà donc le pitch, comme on dit en bon français. Jean-Philippe Toussaint, est-ce que ces mots-là, bitcoin, blockchain, si je parle juste du mot, de la construction du mot, de ce qu'il évoque, est-ce que ce sont des mots sensuels pour un écrivain ?
Non, c'est assez moche. C'est assez moche, mais c'est très contemporain. Et donc moi, je suis très attentif aux contemporains. Et c'est très vivant, ils sont attirants malgré tout. C'est pas parce qu'ils sont moches que je vais pas m'en servir.
Donc vous les mettez dans votre grand creuset qu'est le roman.
Voilà, et donc c'est intéressant, risqué, hein, mais de leur donner un usage littéraire. En fait, franchement, je m'en fous un peu du fond. de ce que ça signifie. C'est pas mon propos, je me suis renseigné, hein, j'ai bien fait mon travail.
Oui, tout est vérifié.
Tout est vérifié.
Si j'étais un spécialiste, je trouverais rien à redire.
J'espère, mais en tout cas, moi, je l'ai fait vérifier. Et jusqu'à présent, personne ne m'a dit qu'il y avait un problème quelconque de ce point de vue-là. Mais disons que moi, ça m'intéresse plus, je dirais, comme une couleur, donner quelque chose à ce roman que je n'avais jamais utilisé et puis qui me semble très contemporain, avec cette façon aussi de nouveau de situer un roman en Chine. Plusieurs de mes romans ont été situés en Chine. On est là vraiment dans le 21e siècle. C'est un roman qui n'aurait pas pu être écrit il y a 20 ans.
La clé USB, votre roman Jean-Philippe Toussaint, est un roman d'espionnage en partie, mais ce n'est pas que un roman d'espionnage, suspense. La suite après San Severino et un extrait de son nouvel album avec le quartet Tango Motan.
Messagerie, il amène le courrier à l'adresse de celui ou celle à qui tu vas enfin déclarer que tu l'aimes depuis des millions d'années. Bénévole en vélo, il vole de ville en ville, messager à deux roues pour l'être indélébile, un postier comme ça, même en rêve, ça n'existe pas. Que réapparaisse le destinataire, et s'il n'est pas chez lui, ne se manifeste pas, il va dormir dans le coin et reviendra le lendemain. La canicule, la neige, la grêle, le vent, la distance, le dénivelé, la pluie, les éléments n'ont aucune forme d'incidence sur le Gino Bartali de la correspondance. Faut que toutes ces missives aient de l'importance. Il trimballe pas les factures ou les contredanses, comme il traverse le pays en bicyclette. C'est pas pour une romance de starlet. Faut qu'il y ait du solide, du vrai, à l'intérieur de l'enveloppe du mystère et de l'amour, car la sueur qu'il aura donnée pour arriver est aussi précieuse que le paquet.
Facteur pirate, San Severino et Tango Motan sur RFI. Et si vous nous prenez en cours de route, je résume les épisodes précédents. Jean-Philippe Toussaint est l'invité de Vive Voix pour son roman La Clé USB, qui pourrait être un roman d'espionnage, mais qui n'est pas simplement un roman d'espionnage, dont on peut dire ou lire la première phrase, un blanc, oui. Et je rajoute la deuxième phrase, lorsque j'y repense, cela a commencé par un blanc. Phrase qui nous amène dans le souvenir et dans un interstice du temps comme une faille spatio-temporelle. C'est impressionnant comme première phrase. Un blanc, oui.
J'étais assez attiré par cette idée. Le narrateur va ménager un blanc dans son emploi du temps, ce qui devient de plus en plus compliqué à notre époque. En effet, c'est développé dès la première phrase du livre. On est dans une période, à une époque, où on est tout le temps localisable. On laisse des traces en permanence. Et ça devient très difficile de ne laisser aucune trace. Et en fait, l'idée, c'est qu'il est invité à Tokyo à un colloque autour de la blockchain, mais il va ménager une parenthèse occulte, 48 heures, en Chine, pour aller visiter justement une mine de Bitcoin. Et personne ne saura qu'il se trouve en Chine à ce moment-là, ni les gens avec qui il travaille à la Commission européenne, ni sa famille. Et donc, il ne va pas rallumer son téléphone, il ne va laisser aucune trace numérique, il va réserver lui-même son billet d'avion, et il ne va même pas dire aux gens qui l'attendent à Tokyo qu'il a fait ce petit détour par la Chine. Et donc, il est dans un blanc, il est nulle part. Et ça, je trouve que c'est une idée très romanesque, c'est-à-dire qu'il se trouve hors du temps, hors des radars.
Comme s'il vivait une fiction à l'intérieur de sa propre vie.
Exactement. Et ça, je trouve, c'est un espace éminemment romanesque. On quitte le courant de sa propre vie pendant 48 heures. Et évidemment, ça peut être extrêmement anxiogène ou inquiétant. On se dit, bon, si je meurs, par exemple, pendant ce temps-là, enfin, si le narrateur meurt, personne ne saura où il est. Il peut y avoir une sorte de vertige aussi là-dedans. Et surtout, qu'il fait des choses, une sorte d'enquête qui est potentiellement dangereuse, qui peut le mettre en péril.
Mais c'est le propre aussi du lecteur quand il ouvre un livre. que d'organiser cette parenthèse. Parce que finalement, si j'ouvre un livre à côté de vous, vous ne savez pas ce que je lis.
Absolument. Il y a une invitation. J'invite, d'une certaine façon, le lecteur à s'introduire dans ce blanc. Je ferai une parenthèse, si je puis me permettre, sur la force du blanc dans la littérature. Sur le fait qu'il y a des choses qui ne doivent pas être dites dans un livre. Justement, il faut ménager des blancs à l'intérieur d'une fiction, à l'intérieur d'un roman, pour permettre au lecteur de se créer sa propre histoire, de compléter. Et en effet, je pense qu'un livre est réussi, et plus réussi, si le lecteur y participe, si le lecteur apporte sa propre expérience, sa propre sensibilité.
Comment vous définissez ce blanc ? Ce serait une obscurité ?
Alors là, c'est très oxymorique ce que vous dites. Si le blanc est noir, on ne s'y retrouve plus. C'est curieux d'ailleurs, parce que j'ai cherché des synonymes de ce blanc. Il y en a pas beaucoup, en fait. Alors il y a un peu parenthèse. Alors je crois qu'on comprend bien ce que je veux dire. Il disparaît des radars. Il y a un blanc dans sa vie. Il y a un trou. Voilà, il y a un trou dans son emploi du temps. Mais il y a pas beaucoup de synonymes. Donc c'est pas quelque chose de. Finalement, nos vies sont très balisées. Il est très rare qu'on arrive à faire des choses qui ne laisse aucune trace en réalité.
Et la vie de votre personnage principal est d'autant plus balisée qu'il travaille à la Commission européenne, vous l'avez dit, et qu'il est spécialiste de prospective. C'est-à-dire qu'il sait grosso modo ce que va être l'avenir. Donc c'est peut-être terriblement angoissant cela aussi. Vous dites d'ailleurs que la prospective ce n'est pas la prédiction, et vous dites que l'avenir est toujours source d'incertitude.
En fait, l'avenir non seulement est source d'incertitude, mais de tout temps, depuis les débuts de l'humanité, il a été source d'inquiétude. Puisqu'en fait, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Et le fait de ne pas savoir ce que l'avenir nous réserve apporte une inquiétude. Et je dirais que ça pourrait être une façon de lire le livre autour de cette inquiétude. Je le dis très vite, au bout d'une dizaine de pages. Il y a une phrase très courte, après la première, l'insipide, qui est un blanc, oui. Il y a une phrase, page 10, je dirais, enfin, je dis ça au hasard. L'inquiétude, voilà. C'est une phrase. Il n'y a pas de verbe, l'inquiétude, virgule, voilà. Et en fait, le narrateur, il dit, l'homme, et moi le premier, a toujours eu cette inquiétude vis-à-vis de l'avenir. Et en fait, on se rend compte que le narrateur, qui en plus va très vite être pris dans une histoire assez compliquée, puisqu'il va trouver une clé USB lors d'un entretien avec une personne avec qui il est en affaire, qu'il va ramasser cette clé USB tombée sur la moquette, et que d'une certaine façon, il va la voler. Ce qui va créer, évidemment, une source d'inquiétude. Et à partir de cette inquiétude primordiale, il va aller d'inquiétude en inquiétude, je dirais, puisqu'il va décider d'aller visiter une usine de minage de Bitcoin en Chine, mais tout ça de façon secrète. Donc il a une sorte de culpabilité qui va le poursuivre tout au long de ses pérégrinations.
Et il y a beaucoup d'écrans, beaucoup d'ordinateurs dans votre roman, Jean-Philippe Toussaint. Et je me suis dit que finalement, ces écrans font écran justement à l'inquiétude fondamentale ou à l'angoisse.
Alors la présence des écrans, des ordinateurs, des machines à miner fait partie de ce monde contemporain. On est entouré de plus en plus de ces écrans, de ces caméras de surveillance, de ces traces numériques que nous laissons. Et puis, dans le domaine du minage de Bitcoin, toutes ces machines qui fonctionnent 24 heures sur 24, il y a un univers. Moi, je ne suis pas spécialement pessimiste, mais en décrivant cet univers, je me rends bien compte qu'il y a quelque chose d'assez inhumain là-dedans. Je ne dis pas que nous allons vers un monde de plus en plus inhumain, c'est pas mon propos, je me contente de l'observer, ce monde. Mais il est vrai que lorsqu'on a de jeunes informaticiens qui sont seulement fascinés par leur propre virtuosité technique, indépendamment de toute morale, de toute éthique, on peut avoir une petite inquiétude.
Et est-ce que le vocabulaire très technologique, très numérique aussi, ne participe pas à cette angoisse ? Vous racontez que votre personnage donc, travaille à la Commission de Bruxelles, avec des jeunes gens, tous les plus modernes et les plus sexy qui soient, et des jeunes filles tout autant, qui sont tous et toutes polyglottes, mais qui parlent anglais. Donc déjà, ils ne parlent pas dans leur propre langue, et en plus, ils parlent un vocabulaire un peu étranger à la majorité des mortels.
Oui, alors en effet, dans ce monde des nouvelles technologies, on quitte l'émotion, le contact avec les mains, le contact avec les yeux. On est dans un monde qui peut paraître inquiétant, même si je le répète, je n'ai pas cherché à critiquer le monde tel qu'il va devenir, j'ai simplement essayé de le percevoir. Et je pense que c'est une des directions du monde, c'est-à-dire que ces nouvelles technologies sont à nos portes. Et il est certain que dans 10 ans, dans 20 ans, bon, une des choses qui m'a beaucoup frappé, justement sur cette blockchain, on en a parlé au début, je ne savais pas ce que c'était, vous ne saviez pas. Et il est possible que cette blockchain aujourd'hui, en 2019, finalement, soit comme si j'avais, au début des années 90, j'avais parlé d'Internet, ou à la fin des années 80. Et je me souviens très très bien, moi, d'un jour, dans le monde où il y avait un supplément qui essayait de parler d'Internet et de ses adresses Internet avec http://2. J'ai dit, mais un truc comme ça n'a aucun avenir. Je vais jamais taper 3W2/machin avec des adresses absolument incroyables. Et bon, je me trompais, puisqu'on les copie, ces adresses. On ne les retape pas à chaque fois. Il suffit de faire
un copier-coller. On les a intégrées, vous pouvez les réciter.
Voilà.
Presque.
Et surtout, on les copie-coller. Bon. Ben, ce que je veux dire, c'est qu'il est pas impossible que d'ici 10 ans ou 20 ans, les blockchains soient absolument quelque chose de commun. Et donc, qu'on utilise pour valider un certain nombre de choses de la vie quotidienne, cette technologie.
Jean-Philippe Toussaint, vous parliez tout à l'heure de la backdoor, elle est très présente dans votre roman, et j'aimerais que vous lisiez ce passage où le personnage, justement, soupçonne l'existence d'une backdoor.
Je rouvris le document qui contenait la photo de l'Alpha Miner 88, et je regardais un instant la machine qui se présentait sous la forme d'un long parallélépipède rectangle grisâtre avec un ventilateur apparent. Je regardais la photo de cette machine qui recelait peut-être un accès secret à l'insu de ses utilisateurs. Et je réfléchissais au sens du mot « backdoor » qui voulait dire littéralement « porte de derrière », mais qu'on traduisait parfois en français, quand on n'utilisait pas tout simplement en français le mot « backdoor », par « porte dérobée ». Je mets beaucoup cette métaphore d'une porte dérobée, qui évoquait une scène galante, avec un visiteur invisible qui vient d'entrer ou de sortir, ou faisait penser à ces escaliers ou corridors dérobés qui ouvrent l'imaginaire à des représentations chevaleresques.
Extrait de La clé USB de Jean-Philippe Toussaint, votre nouveau roman où le langage techno peut aussi ouvrir sur des rêveries chevaleresques. Alors, on ne va pas raconter tout dans le détail de cette histoire d'espionnage. On va quand même un peu ménager le suspense, mais révéler deux ou trois choses. J'aimerais m'attarder quelques instants sur le nom de ces lobbyistes qui viennent comme ça harponner votre héros à la commission de Bruxelles, John Stavropoulos, Dragan Kouchka, et il y a une femme mystérieuse aussi, Yolanda Paul. Pour moi, ça fait très Tintin.
Alors, il est vrai que Stavropoulos peut faire penser à Rastapopoulos.
Exactement.
Certes,
ah, mais
sinon c'est un nom grec, c'est un simple nom grec. Mais c'est vrai qu'il y a, j'ouvre immédiatement l'imaginaire avec ces trois noms. Yolanda Paul aussi, je trouve ça, je suis assez content du nom Yolanda Paul. Et justement, le narrateur n'arrive pas à savoir quelle est l'origine de ce nom, d'où elle vient. Alors, il s'entretient avec elle uniquement en anglais. Il sait même pas que c'est son origine. Et je crois que les noms, évidemment, on le sait depuis Proust, le nom porte avec soi un imaginaire. Et choisir un nom propre, et déjà une description presque d'un personnage.
Mais quand je dis ça fait pas Tintin, c'est que tout d'un coup, ils ne sont pas tout à fait vrais. Vous voyez, ils sont un peu ridicules. C'est comme si vous nous mettiez, nous, lecteurs, presque sur une fausse piste. On croit à votre histoire et en même temps, on sent bien que quelque chose se passe à côté ou qu'il faut regarder à côté, qu'il va y avoir un détour de la même manière que votre personnage va au Japon et passe par la Chine. Vous aimez bien les détours, Jean-Philippe Toussaint.
Absolument, et les fausses pistes aussi. Mais là, en l'occurrence, c'est le personnage des trois lobbyistes, c'est John Stavropoulos qui est nettement le leader, la personne la plus importante. Et c'est vrai que je le décris comme un personnage qui, même dans la vie réelle, a l'air d'un personnage de roman. Alors, ça me semble une façon assez intéressante dans un roman de situer un personnage. Oui. Alors qu'en effet, nous sommes dans un roman, mais il a l'air d'un personnage de roman.
Mais on pourrait dire que c'est aussi un personnage de cinéma, parce que je trouve que oui. Vous écrivez, vous avez fait du cinéma, vous écrivez très cinéma, avec une grande précision d'action. Et puis alors là, on a les lunettes noires, la Mercedes qui démarre pas, les rendez-vous à l'hôtel. Noël. Et vous précisez d'ailleurs dans le roman que le mot scénario vaut pour la prospective, donc métier du narrateur, mais aussi pour le cinéma.
Oui, c'est une belle anecdote en fait que j'ai apprise en me renseignant. C'est-à-dire que c'est Herman Kahn qui est à l'origine de la méthode des scénarios en prospective stratégique. Donc pour appréhender l'avenir, il faut passer par des scénarios. Et en fait, c'est en discutant avec un scénariste d'Hollywood qu'il a choisi ce mot scénario. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il a choisi ce mot scénario parce que le scénariste d'Hollywood lui a dit qu'en anglais, on n'utilisait plus le mot scénario, on utilisait le mot screenplay. Et donc, en fait, à Hollywood, ils ont des screenplays pour les films. Et donc, le mot scénario était libre d'une certaine façon. Et donc, Herman Kahn s'en est emparé et a dit, nous allons utiliser ce mot scénario, justement pour les scénarios que nous allons établir en prospective stratégique.
Glissement, porte dérobée, détour, fausse piste. Il y a de l'humour aussi dans votre roman, Jean-Philippe Toussaint, cette scène où le narrateur se fait voler son ordinateur en Chine, dans des toilettes, avec une main comme ça qui sort de sous la porte. C'est assez drôle. Et en même temps, ça va être la catastrophe pour lui, parce qu'il part à Tokyo sans son ordinateur, sans son discours. C'est la bérésina. Et c'est à partir de ce moment-là que tout dérape, d'ailleurs.
Oui.
Ou que tout commence.
Oui, on peut le voir comme ça aussi. Je l'avais dit, pour moi, c'est un livre qui parle d'inquiétude. Et cette inquiétude, qui est purement professionnelle, va à un moment se transformer en une inquiétude privée, personnelle. Et ça, je pense que c'est un tournant dans le livre, et le livre va prendre une autre direction.
Magda, 30112.
Merci d'être venu, Michael. C'est Harriet. Harriet Wenger, la fille de mon frère Gottfried.
Que lui est-il arrivé?
Elle a purement et simplement disparu.
Que pouvez-vous me dire sur Blomqvist?
On a tous des secrets.
Wasp. Quelqu'un pirate mon ordinateur. Un certain Wasp.
Tu ne connais pas les membres de ma famille. Tu n'as pas idée de quoi ils sont capables.
Qu'est-ce que tu veux?
J'ai besoin de ton aide.
LI 31208.
Alors tous ces tours, détours, ces bitcoins, l'espionnage, la Chine, le Japon, pour arriver à l'événement que finalement le narrateur redoute le plus au monde, Jean-Philippe Toussaint, qui est la mort de son père. Et là, c'est un sacré pied de nez que vous nous... Je ne sais pas si c'est le mot pied de nez, c'est le mot qui me vient, mais enfin, quand même, on est fauché dans le livre, dans les 30 dernières pages, de voir qu'on s'est trompé complètement sur la nature du roman et que finalement, ce qui est l'angoisse essentielle, la vraie nature de l'angoisse, dit le narrateur, et la vraie nature du livre, c'est la question de la mort du père et peut-être pas toutes ces histoires d'espionnage.
Il y a une scène centrale, c'est quand il rentre en Europe précipitamment pour rejoindre son père, gravement malade. Dans l'avion, il a cette réflexion que peut-être toutes les inquiétudes qu'il a eues jusqu'à présent autour de cette clé USB, autour de cette porte dérobée, autour de ces machines, que toutes ces inquiétudes, il se les ait peut-être créées artificiellement pour voiler, pour masquer l'inquiétude réelle qu'il pouvait éprouver au sujet de la santé de son père, parce que son père était malade depuis quelques années. Et donc, d'un seul coup, le livre bascule, je dirais, de la sphère publique à la sphère privée. Et je trouve que c'est une chose intéressante lorsque ces deux sphères rentrent en collision, qu'il y a une sorte de court-circuit. Ça m'avait déjà frappé, par exemple, lors des attentats. On peut imaginer, lors des attentats, que les gens sont perdus dans leur propre pensée privée, et d'un coup, le monde extérieur va brutalement les sortir de leur monde privé, de façon brutale et insupportable. Mais ça peut arriver aussi que, alors qu'on est pris dans ces affaires professionnelles, dans ces affaires publiques, à un moment, notre intimité, nos affaires privées, peut faire irruption et nous fait prendre conscience que finalement, toutes nos agitations sociales n'ont finalement peut-être pas beaucoup d'importance par rapport à quelque chose qui va nous ramener à notre enfance, à l'essentiel de nos vies et à quelque chose de beaucoup plus fondamental.
C'était le sujet, le point de départ du livre.
Je crois qu'on peut le résumer comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est drôle, je me considère plus comme un écrivain que comme un romancier, en général. Mais pour ce roman-là, en tout cas au début, j'ai voulu être romancier parce que j'ai vraiment essayé de construire un roman. C'est pour ça qu'on a dit beaucoup que ça s'apparentait à un roman policier ou à un roman d'espionnage. Et en effet, j'ai moi-même construit ça comme une horlogerie avec des mouvements, des rebondissements, etc. Je l'ai vraiment construit comme ça. Mais en effet, je crois que je visais autre chose. Et ce que je visais, c'était quand même un travail d'écrivain. Et ce travail d'écrivain, c'est, et ça je peux le dire aussi, je n'ai jamais été autant romancier que dans ce livre-là, mais je ne me suis jamais autant servi de ma propre biographie, parce que évidemment, ce qui a trait au père du narrateur est lié à ma propre vie, est une vraie expérience personnelle. Et je, dans ce roman, j'ai osé aborder des choses très intimes que je n'avais, je crois, jamais abordées dans, en littérature.
Vous dites que vous êtes un écrivain plus qu'un romancier. Pourtant, j'ai lu une phrase de vous que je trouve assez jolie, où vous dites « je romance le réel ».
Oui. En tout cas, il est certain que de se servir de la fiction permet de se protéger. C'est-à-dire que ça permet d'aborder les choses très intimes en se protégeant derrière la fiction.
Jean-Philippe Toussaint, avec ce roman « La clé USB », vous faites la démonstration que l'on n'écrit plus finalement en 2019 comme on le faisait au 19e siècle ou même au 20e siècle. Il n'y a pas de traces de clé USB chez Balzac, Zola ou je ne sais qui. Je ne sais pas qui est d'ailleurs votre...
Même Proust.
Qui est votre auteur fétiche.
Proust, par exemple.
Justement. Proust. C'est lui qui vous a donné envie d'être écrivain ?
Non, mais enfin, je pense que c'est Beckett le plus grand choc. Mais après, Proust, je continue à dialoguer avec lui en permanence, je dirais.
Mais ça veut dire que la littérature vieillit et qu'elle est forcément toujours de son temps ?
Non, elle vieillit pas du tout, mais le monde continue, le temps passe. De nouveaux objets apparaissent et heureusement, il y a de nouveaux écrivains pour faire de la littérature avec de nouveaux objets. Pour moi, c'est très important, ça. C'est de comment faire de la littérature, justement, on en parlait au début, avec des mots aussi moches, apparemment, que Bitcoin et blockchain. C'est pas parce que les mots sont moches qu'on peut pas faire de la belle littérature. Enfin, en tout cas, c'est mon ambition.
Mais est-ce que vous écririez aujourd'hui La Salle de Bain, qui est votre premier roman qui vous a propulsé sur la scène nationale et internationale? Vous n'aviez pas 30 ans et vous étiez comme ça tout d'un coup devenu un auteur célébré, traduit combien? 20, 30?
Oui, 30 La Salle de Bain, au moins. Oui,
est-ce que vous le réécririez aujourd'hui?
Non, mais c'est une recherche, c'est un parcours. C'est-à-dire, en fait, ce parcours commence avec La Salle de Bain et tout vient de là. C'est-à-dire qu'en fait, je garde ses racines. Je dirais que même La Clé USB, où on ne sent pas d'influence directe ou indirecte de La Salle de Bain, provient de là. Donc c'est vrai que j'ai commencé mon chemin avec La Salle de Bain et je dirais que à chaque fois, je considère l'ensemble du parcours comme une recherche où chaque fois, j'essaie d'apporter quelque chose de nouveau. Et à chaque fois, j'essaie de regarder le monde autour de moi tel qu'il est. Et c'est vrai que en l'occurrence, avec ce roman La Clé USB, je parle vraiment d'un monde tout à fait nouveau, puisque le Bitcoin apparaît en 2008. Donc c'est un roman qui ne pouvait pas exister il y a plus de 10 ans.
Pour faire un tout petit peu de prospective avant de se quitter, que sera la littérature en 2100 ? Vous serez plus là, moi non plus.
C'est très probable.
Les livres seront là. Comment ça, vous n'êtes pas sûr de ça ? Moi, je suis sûr de ça.
Oui, alors les livres seront là. Je dirais même que les livres papier seront encore là. Je ne suis pas du tout pessimiste, je ne crois pas du tout à une disparition totale de l'écrit, parce que l'écrit a en soi une richesse telle que ce serait dommage de s'en priver complètement. Alors peut-être qu'il sera marginalisé encore plus, et il y a une évolution. Je veux dire, on peut penser que l'âge d'or ou le sommet, c'était Voltaire qui était porté en triomphe à Paris par ses lecteurs, Victor Hugo, voilà. Et depuis, la littérature a un peu baissé, mais enfin, elle se porte encore assez bien. Donc 2100, je suis assez confiant et assez optimiste. 2200, je commence à me méfier un peu. 2300, là, on pourrait quand même filer un mauvais coton.
Il sera temps d'aller voir. Merci beaucoup.
Rendez-vous en 2300.
Voilà, 2350. Allez. Merci beaucoup Jean-Philippe Toussaint. Votre roman La Clé USB est à lire aux éditions de Minuit. De vive voix, Pascal Paradou, programmation Véronique Durand, Guillaume Ploquin à la réalisation. À très vite.